La Méridienne.
Et on y revient avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Ça va bien en forme ?
Ça va, ça va.
Bon, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans cette rubrique Nuance du Monde ?
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était un petit bout de temps, c'était deuxième quinzaine de janvier, je crois, et j'avais fait une première partie d'un hommage à un anthropologue américain qui s'appelle David Graeber.
Ouais.
J'avais parlé à l'époque de monnaie, de crédit et de capitalisme. Et je fais la deuxième partie de cet hommage à David Graeber, cet anthropologue qui est décédé en 2020, à travers l'analyse de son dernier ouvrage qu'il a coécrit avec un archéologue qui s'appelle David Wengro. Et cet ouvrage s'appelait « Au commencement, une nouvelle histoire d'humanité ». Il est paru il y a donc à titre posthume en 2020-2021, je ne sais plus. Parce qu'il nous permet de nous poser une question très intéressante. Et cette question, c'est « Pourquoi vivons-nous dans des sociétés inégalitaires partout dans le monde ?»
Ah oui, c'est une bonne question.
Alors je vais commencer par une petite histoire. La petite histoire que nous racontait la science officielle il n'y a encore pas si longtemps. Et elle nous disait, la petite histoire, la chose suivante. Au Paléolithique, il y a environ 40 000 ans avant Jésus-Christ, les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Et c'est au Néolithique, il y a environ 6 000 ans avant Jésus-Christ, qu'est apparue l'agriculture et que par l'agriculture, le processus de civilisation s'est déclenché. Les êtres humains se sont attachés à leur sol, la notion de propriété privée est apparue, la possibilité d'accumuler des surplus a généré des emplois agricoles de gens qui ne possédaient pas la terre et des gens qui possédaient la terre et qui avaient du temps pour réfléchir, expérimenter, innover, etc. Et c'est ainsi, disait l'histoire officielle, qu'est apparue la civilisation moderne avec les innovations technologiques et inéluctablement les inégalités. Eh bien, sais-tu que désormais, Mathieu, on s'est aperçu que cette histoire officielle est globalement fausse.
C'est ce que tu nous disais sur la création de la monnaie.
Déjà, bien sûr, bien sûr. La réalité est tout autre et je vais faire ça en quatre parties. Première partie, revenons à nos sociétés traditionnelles. Alors oui, au Paléolithique, entre moins 45 000 et moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, en gros, il y avait bien des chasseurs-cueilleurs. Mais en fait, ce qu'on sait désormais, c'est qu'il y avait au Paléolithique supérieur, il y a moins 30 000 ans avant Jésus-Christ, déjà des sociétés structurées. Avec des édifices collectifs, avec des cités. Et ces sociétés, c'est ça qui est extraordinaire, elles n'avaient aucune dimension inégalitaire. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'aristocratie. Elles étaient organisées même dans le but explicite d'éviter l'émergence de pouvoirs arbitraires et de domination. Alors, si on saute quelques dizaines de milliers d'années et qu'on va au néolithique, eh bien, 6000 ans avant Jésus-Christ, en Europe, en Ukraine, on trouve encore des cités de ce type-là, égalitaires. 4500 ans avant Jésus-Christ, en Asie du Sud, dans la vallée de l'Indus, on trouve aussi des cités de ce type-là. Et 4000 ans avant Jésus-Christ, en Amérique, on trouve également des cités de ce type-là. Donc ça veut dire que pendant des milliers d'années, on a eu des civilisations égalitaires. L'agriculture, eh bien, elle n'a pas déclenché automatiquement l'apparition d'institutions de pouvoir hiérarchiques, inégalitaires. Puisqu'en fait, 6000 ans séparent l'apparition des premiers agriculteurs de l'émergence des premiers États autoritaires hiérarchisés. Donc l'agriculture n'est pas un déclencheur. La majorité des sociétés donc à l'époque faisaient le choix de rester égalitaire et ça amène les auteurs David Graeber et David Wengro à définir trois libertés fondamentales. Un, la liberté de quitter les siens. 2, la liberté de désobéir aux ordres. Et 3, la liberté d'inventer une structure sociale différente. On reviendra sur ces trois libertés, c'est important, on met de côté pour l'instant. Les sociétés traditionnelles, la science officielle, nous disait, jusqu'à encore pas si longtemps, qu'elles étaient en quelque sorte enfermées dans un présent permanent, dans une conception cyclique du temps. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que non, c'est pas vrai. Ces sociétés traditionnelles, elles ont inventé plein de choses. Elles ont inventé le tissage, la navigation en haute mer, le travail des métaux, etc. C'est des sociétés qui progressaient, qui expérimentaient. Et elles expérimentaient comment ? Eh bien, essentiellement par le travail quotidien des femmes. On y vient aux femmes. Les femmes qui, par des petites découvertes quotidiennes, mais qui s'accumulent au fil des générations, eh bien, ont constitué le socle d'une progression des connaissances. Il y a un ouvrage d'un auteur de Harvard, Joseph Henrich, qui s'appelle « L'intelligence collective », qui parle de ça à merveille, je le mettrai dans le podcast. Et ça, c'est valable pour la créativité technologique, mais la créativité sociale, c'était la même chose. Ils expérimentaient des modes de relations sociales complètement étonnants. Et donc, si l'humanité a fait fausse route à un moment, c'est en perdant la liberté d'inventer et de concrétiser d'autres réalités sociales. Ce qui nous amène à la partie 2. Comment et pourquoi, mais on va commencer par le comment, tout ça est-il parti en cacahuète ? Alors, la réponse officielle... Ouais. Revient toujours à la vision traditionnelle, c'est ben, l'État moderne a fini par émerger parce qu'avec lui émerge la domination, la violence, c'est inéluctable, c'est comme ça, poète. Ok, Est-ce que c'est si sûr? On va essayer d'y voir plus clair. Alors, le premier véritable État reconnu dans l'histoire, c'est l'Égypte antique, qui allie un appareil administratif efficace, une bureaucratie, avec une souveraineté absolue. Oui, c'est cette alliance des procédures bureaucratiques et de souveraineté très forte, voire de tyrannie, qui caractérise les États tel qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, si on parle de domination, de tyrannie, on peut se demander comment sont apparues la servitude, l'esclavage, et ça, bah pour y répondre, il faut écouter ma première chronique sur David Graeber, que je mettrai en lien, puisque c'est cette première chronique qui explique que la servitude et l'esclavage sont apparues quand on est passé d'un monde de relations sociales interpersonnelles, fondées sur l'entraide, à un monde de relations impersonnelles, fondées sur le calcul, les mathématiques et la violence. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux États modernes. Les États modernes, les premiers représentants, c'est donc l'Égypte, j'en ai parlé, des pharaons, mais le Pérou des Incas, le Mexique des Aztèques, la Chine des Han, la Rome impériale, la Grèce antique, tout ça, ce sont des États où on voit opérer un gouvernement autoritaire par le recours à la violence et, devine quoi, je reviens au sujet d'aujourd'hui, la subordination totale des femmes. Dans tous les cas, les trois libertés que les auteurs ont définies et que j'ai évoquées tout à l'heure sont sacrifiées, d'accord ? Et d'où la conséquence, le caractère inégalitaire, inévitable de ces sociétés modernes. Ce qui nous permet de passer à la partie 3, la question du pourquoi. Pourquoi ces sociétés inégalitaires sont-elles apparues ? Alors les auteurs définissent en gros trois grandes catégories de causes. Première catégorie, la constitution progressive avec le temps d'aires culturelles et géographiques séparées, mais surtout en tension les unes contre les autres. Ouais. Et c'est ces tensions politiques entre ces aires qui va exacerber les différences culturelles, organisationnelles de ces aires. Et c'est ainsi que certaines d'entre elles vont faire apparaître des sociétés de classe avec des aristocrates, des esclaves, des roturiers, etc. Ça, c'est la première cause. Deuxième série de causes, on l'avait vu dans la première chronique, la précédente chronique sur David Graeber, la pratique des guerres. Et là, il y a un peuple qu'il faut nommer, qui sont les Romains, la Rome antique, qui vont vraiment beaucoup dégrader la situation. Ils vont profondément transformer la conception de la propriété. Sous les Romains, la propriété devient synonyme d'un pouvoir absolu sur une chose, mais aussi sur des individus éventuellement. Les Romains vont faire reculer la notion de liberté. La liberté va être réduite au domaine privé, et même dans le domaine privé, il y a une notion de domination absolue du patriarche sur la famille. Troisième point, la pratique de l'esclavage. Et là encore, le pouvoir romain va faire passer un cran dans cette pratique de l'esclavage, parce que sous Rome, n'importe qui peut devenir esclave, ce qui n'était jamais le cas dans les autres civilisations. Et cette pratique de l'esclavage, c'est une étape décisive. C'est le moment où l'espèce humaine passe d'une philosophie qui consiste à accueillir les étrangers et les réfugiés à bras ouverts, voire même sacralisés parfois, à un processus où on va les rabaisser, les exploiter et en faire des esclaves. Donc voilà ces trois grandes catégories de raisons qui peuvent expliquer l'apparition des sociétés inégalitaires, la mise en tension d'aires culturelles entre elles, la pratique des guerres et la pratique de l'esclavage. Ben, d'où l'effondrement de la première liberté, la liberté de partir, qui ouvre la voie à l'effacement de la deuxième liberté, de désobéir, et pour la troisième liberté, de se créer de nouveaux univers sociaux, ben, c'est plié. Voilà. D'où ma quatrième partie. Était-il inévitable que les types de pouvoir inégalitaires, monarchiques, s'imposent comme la forme de gouvernement prédominante à l'échelle de la planète? On a tendance à dire oui, c'était inévitable, etc. Les auteurs, David Graeber, David Wayne Grow, vont étudier, et dans leur livre, ils étudient l'Amérique précolombienne, c'est-à-dire avant l'arrivée de Christophe Colomb, et ils vont répondre, bah non, c'était pas inéluctable. Alors ils nous citent, par exemple, 250 ans avant Jésus-Christ, la cité de Teotihuacan, je vais essayer de me concentrer parce qu'ils ne sont pas faciles à prononcer, ces cités américaines. Ça, c'est dans la vallée du Mexique. Cette cité, 250 ans avant Jésus-Christ, elle comptait 100 000 habitants. Elle n'avait pas de temple, elle n'avait pas de palais royaux, elle n'avait que des habitations très confortables et égalitaires pour toute la population. Je saute dans le temps, j'arrive au XVIe siècle. Cortés attaque la capitale aztèque des Tenochtitlan. Très cruel, très inégalitaire. Mais il a un allié, Cortés. Il a un allié et c'est une autre cité, la cité de Tlaxcala, qui était exactement ce type de société, de cité égalitaire, de société égalitaire. On est au XVIe siècle. On va terminer avec la culture des Amérindiens d'Amérique du Nord, la culture des Hopewell. Alors, on l'a connue en Europe. grâce à un sage indien qui a été emmené en Europe, qui s'appelait Kandyarong, et qui va faire le tour de toutes les grandes capitales européennes et qui va expliquer ce qu'est sa culture. Et en Europe, ça, ils vont être stupéfaits de ce qu'ils entendent de la description de la société que décrit Kandyarong, parce qu'il décrit une société dans laquelle des sujets comme le pouvoir héréditaire, la religion révélée, la liberté individuelle, l'indépendance des femmes, tous ces sujets n'ont jamais cessé d'être débattus, et dans une totale liberté. Mmh. Et dans une société qui, au cours des trois siècles qui ont précédé l'arrivée de Christophe Colomb, ont toujours été des sociétés anti-autoritaires. Voilà. Donc, pour conclure un peu cet hommage à David Graeber, et répondre à cette question, pourquoi, je dirais, vivons-nous dans des sociétés inégalitaires ? On peut dire que c'est un chemin que l'humanité a pris, mais qui n'est pas inéluctable. Et donc, avec David Graeber, je conclue en disant « Retrouvons cette liberté de penser un autre monde ». J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick.
La Méridienne.